en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Nous vous proposons d'écouter Monsieur Émile Poulat, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous l'écoutons.
Je dirais que, après avoir écouté toutes ces communications, je me suis dit qu'il serait important de recadrer la loi de 1905, car chaque spécialiste abordant un petit peu son domaine et en pensant à son sujet, son expérience, je dirais, ne fait pas nécessairement référence à cette loi dont le centenaire nous réunit. Je dirais que cette loi de 1905, je la caractériserais de trois manières. Premièrement, et ce n'est pas seulement le centenaire de la naissance de Joséphine Baker, c'est aussi le centenaire de la loi d'Einstein.
Ah oui.
Et oui. Et je dirais que la loi de 1905 m'apparaît d'abord comme un espace-temps. Je dirais ensuite qu'elle m'apparaît comme un acte, et troisièmement, comme un texte. Elle m'apparaît comme un espace-temps, c'est-à-dire que je crois qu'il faut revenir à ce qui a été le concordat, le régime concordataire. Le régime concordataire a été établi pour la France métropolitaine. Et par conséquent, le concordat, c'est d'abord la métropole. J'ajouterais que par la suite, il y a eu deux extensions. Premièrement, les vieilles colonies, les colonies primitives, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, avec la création de trois évêchés coloniaux en 1850, et puis après l'Algérie avec ses trois départements, 18e province ecclésiastique de France. Donc c'est la deuxième extension, et que le gouvernement français a tenté d'élargir encore à d'autres territoires, mais qu'il n'y est jamais parvenu, et que la raison de cet échec, c'est tout simplement que le concordat prévoyait la nomination des ordinaires, des évêques, si vous voulez, par le pouvoir public. Et que le Saint-Siège demandait au gouvernement français de renoncer à cette prérogative s'il voulait avoir une extension du concordat, et que le gouvernement français n'a jamais accepté. Et donc le concordat est demeuré limité. Je vous dirais, oui, c'est important à comprendre, parce qu'à partir de là, va se poser pour les territoires d'outre-mer, à partir de 1905, un problème très particulier, c'est-à-dire que nous sommes devant des territoires qui ne sont régis ni par le concordat, ni par la séparation. Ni par le concordat, ni par la séparation. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette situation de ni-ni ? On nous l'a expliqué un petit peu en invoquant précisément les pouvoirs que le gouvernement se réservait en matière de législation coloniale, avec la spécialité législative. Alors, je dirais que quand on a tenté, on a parlé, vous savez, il y a un article 43 qui dit que un règlement d'administration publique dans les trois mois déterminera les conditions d'application de la loi de 1905. Il a suffi de 6 semaines pour que le règlement paraisse. Ça a été très vite. Et il ajoutait un peu étourdiment « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles cette loi peut être appliquée à l'Algérie et aux colonies ». Je dis c'est un petit peu imprudent, irréfléchi. On a le sentiment que ça a été rajouté comme ça. Parce que les choses sont beaucoup plus compliquées, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'appliquer la loi de 1905 ? Eh bien, je dirais d'abord, il faut tenir compte qu'il y avait deux territoires au moins qui ne relevaient pas du règlement d'administration publique. Il y avait la Guyane. Or, la Guyane, ordonnance, ça ne peut être abrogé que par, ça ne peut être modifié que par une loi et non pas par un. Bon. Deuxièmement, il y avait une convention avec le Saint-Siège concernant les établissements français de l'Inde. Donc là également, ça ne relève pas du règlement d'administration publique. Et si nous continuons, nous demandons, mais appliquer la loi de 1905, appliquer la séparation, qu'est-ce que ça veut dire ? Or, la loi de 1905, c'est l'abrogation du concordat, donc la dissolution des établissements publics chargés d'assurer le service du culte. Que signifie appliquer la loi de 1905 ? Là où il n'y a pas d'établissement public à dissoudre, là où il n'y a pas de paroisse, là où il n'y a pas de diocèse, si vous voulez, et par conséquent, là où il y a peut-être un vicaire apostolique, mais pas d'évêque diocésain. Et d'autre part, que signifie cette application de la loi de 1905 qui présuppose que la loi de 1901 soit en vigueur, puisque les associations cultuelles doivent se conformer aux associations de 1901. Or, dans tous ces territoires, la loi de 1901 n'a jamais été mise en application. Qu'est-ce que ça veut donc dire dans ces conditions ? Personne ne s'est interrogé, ce qui a expliqué tout ce que nous avons entendu sur les difficultés. Alors, je dirais, donc, c'est véritablement, la loi de 1905 doit être comprise comme un espace-temps, si vous voulez, étant donné qu'il lui a fallu du temps pour déployer ses effets, et d'autre part qu'elle a été nécessairement limitée dans l'espace, compte tenu de ses particularités. Alors, j'ai dit que la loi de 1905 était un acte. Je dirais que les juristes ont peut-être trop tendance à s'en tenir au texte, parce que la loi de 1905 n'est pas seulement un texte. Elle est d'abord un acte de la volonté du législateur. Et par conséquent, il faudrait scruter cet acte et ce que implique cet acte, je dirais, indépendamment du texte et parfois même dans le non-dit du texte. Or, je dirais, je vois là deux points en particulier. Je vois là d'abord, si vous voulez, ce que j'appellerais le geste fatal. Le geste fatal... Eh bien, ce fut la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en juillet 1904, pour les raisons qui nous ont été expliquées, je n'y reviens pas. Pourquoi geste fatal ? Eh bien, parce que, précisément, le concordat devenait inapplicable. Étant donné que le gouvernement pouvait continuer à nommer des évêques, mais que les évêques demeuraient sans pouvoir canonique. Hein ? À ce moment-là, vous aviez deux solutions. Ou bien revenir à une nouvelle constitution civile du clergé. Bon, l'expérience a été suffisamment négative pour que les républicains ne soient pas tentés d'y revenir, d'en nous faire une deuxième mouture. Ou bien alors, ce qu'on a appelé la séparation. Ce qu'on a appelé la séparation. C'était donc le geste fatal. Alors, on nous a dit que, là, pardonnez-moi si je suis un peu provocateur, mais on nous a dit que le tort de cette loi, ça avait été la dénonciation unilatérale du concordat. Écoutez, personnellement, moi, je fais une autre lecture de la loi. D'abord parce que toute dénonciation, par définition, est unilatérale. Sinon, il y a accord. Hein ? Il n'y a pas dénonciation. Bon, sinon, il y a accord. Or, ce que je lis, c'est autre chose. Un Parlement n'a pas le pouvoir d'abroger une convention internationale. Toute convention internationale, pour prendre effet, doit être reçue par le Parlement, doit être acceptée par le Parlement et ensuite être publiée. Or, ce que le Parlement a abrogé, c'est la loi de Germinal, c'est-à-dire le concordat, ensemble les articles organiques du culte catholique, luthérien et réformé. Il a donc abrogé cette loi, la loi de Germinal. Alors après, ensuite, il aurait fallu normalement que notre ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur fassent part de cette décision parlementaire, précise au Saint-Siège ce qui s'était passé au Parlement. Or, cela n'a jamais été fait. Donc, d'une certaine manière, le concordat n'a jamais été dénoncé. On pourrait dire que c'est une sorte de belle au bois dormant et qu'un jour, la République, princesse charmante, pourrait très bien réveiller ce concordat. Que la loi abroge ce que la loi avait déjà abrogé. Le Parlement peut faire, faire ce qu'il veut, il peut défaire ce qu'il a fait et refaire ce qu'il a défait. Hein. Et donc, on se trouverait là dans une situation absolument rocambolesque, étant donné tout ce qui s'est passé depuis un siècle. Mais je dirais que l'abrogation de la loi de Germinal laisse entière à la charge du ministère, du gouvernement, le soin de notifier cette décision, ce qui n'a jamais été fait. Alors, je dirais que c'est un acte, mais précisément, je crois que c'est ça qui est important à noter, si vous voulez. C'est qu'on a dit que c'était la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Or, moi, j'en suis étonné. Dans la loi de 1905, je ne réussis pas à avoir le pouvoir spirituel. Ce que je vois simplement, c'est la séparation de deux temporels. Le temporel, disons, tout ce qui relève du domaine public, de l'État, des départements et des communes, et tout ce qui, appartenant aux établissements dissous, aurait dû revenir aux associations cultuelles. La loi de 1905, c'est strictement matériel. Bon. Alors, en revanche, ce que je vois et qui est important, c'est que la loi de 1905, par son caractère unilatéral, comme d'ailleurs toute loi française, est une loi qui, paradoxalement, abroge, enfin, cesse de reconnaître le pouvoir spirituel en tant que tel. Le pape n'a aucun pouvoir en France, il n'a d'ailleurs jamais eu de pouvoir en France, puisque toutes les décisions devaient être enregistrées par le Parlement, hein, et donc il n'y a plus de pouvoir spirituel, ce n'est plus une négociation de pouvoir à pouvoir, c'est une manifestation unilatérale, une volonté du Parlement français, et en revanche, par l'article 4, au lieu du pouvoir spirituel, ce qu'on voit apparaître, c'est l'autorité religieuse, qui est reconnue par l'article 4. Et je crois qu'il faudrait réfléchir davantage sur cette distinction entre pouvoir et autorité. Je vous rappellerai simplement qu'il y avait, dans l'esprit de Montesquieu, les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et que le général de Gaulle s'est contenté de deux, ramenant le pouvoir judiciaire à une autorité judiciaire. Je dirais qu'aujourd'hui... Pardon ?
Il avait parfaitement raison.
Et donc,
il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire que dans l'imagination de Montesquieu.
Bon, alors, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les deux pouvoirs, temporel et spirituel, cela appartient au passé. En revanche, il faudrait réfléchir sur ce que représente l'autorité religieuse. Et la meilleure preuve en est, si vous voulez, ce qui était impensable pour le législateur de 1905, que le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, participe aux rencontres annuelles entre le Premier ministre et la conférence des évêques de France. Oui, ce qui, effectivement, est reconnaître l'autorité religieuse du Saint-Siège. Et je crois que c'est une première dans l'histoire de France sous cette forme-là. Il y a donc là une mutation extrêmement profonde, si vous voulez. Alors, je dirais que... Bon, on m'a demandé d'être bref, si vous voulez. Je dirais, la loi de 1905, faut-il la modifier ? Peut-on la modifier ? Faut-il la modifier ? Ben, je dirais, écoutez, là, nous sommes devant quand même un certain nombre de truismes, c'est-à-dire qu'aucune loi n'est irrévocable. Hein. Toute loi peut être modifiée, ça a toujours... Et par conséquent, pourquoi faire une exception pour la loi de 1905 ? Alors, en revanche, il faut bien le dire... c'est qu'elle a déjà été modifiée. Par conséquent, faut-il encore la modifier ? Selon le ministère de l'Intérieur, elle a été modifiée 8 ou 9 fois. Moi, dans la réalité, je suis bien au-delà de ce chiffre, c'est au moins le double, sinon le triple, si vous voulez, et je pense qu'elle a tellement été modifiée, bricolée, qu'on est en plein cafouillage, en plein bafouillage, si vous voulez, et que ce qui s'impose de première urgence, c'est une édition critique de la loi de 1905. Une édition critique. Et ce n'est pas un petit travail. En effet... Si vous voulez, j'ai fait une typologie, je me suis amusé à faire une typologie des différentes modifications. Et vous allez voir, c'est édifiant. Pour 44 articles, j'aboutis tout simplement à une typologie à 10 cases. Hein ? Alors, il y a premièrement les parties mortes de la loi de 1905. Les parties mortes de la loi, appelez-les caduques, appelez-les obsolètes, appelez-les sans-objet. Je vous laisse le soin de choisir votre langage. Donc, alors, premièrement, eh bien... il y a la première cause de ces parties mortes, c'est par extinction des bénéficiaires. Par exemple, la loi de 1905 accorde plusieurs articles sur les pensions et allocations des ministres du culte ayant suffisamment exercé. Écoutez, depuis un siècle, je n'en connais plus un seul qui soit vivant. Par conséquent, allégeons la loi de ces articles. On continue à les publier, alors qu'il n'y a plus aucun... Bon, donc, par extinction. Bon. Deuxièmement... par forclusion des délais. C'est-à-dire qu'on donnait 1 an, ou on donnait 2 ans, ou 5 ans, tout ça, ça a été modifié également. Par conséquent, la forclusion des délais, tout cela, ça n'a plus d'objet, ça peut disparaître. Et puis, troisièmement, cause d'obsolescence, c'est par dévolution dans les règles telles qu'elles avaient été prévues. Or, aujourd'hui, tous les biens sont attribués. Il n'y a plus de contentieux, apparemment il n'y a plus de séquestre, les domaines n'ont plus de séquestre, et s'il y avait encore un séquestre, je crois que la prescription trentenaire suffirait à jouer. Alors, si l'on regarde d'autres modifications, bien, il y a des modifications législatives. Hein. Les modifications législatives, on en trouve d'abord par abrogation pure et simple. Donc tout ça a disparu, et on n'en a plus aucune idée aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'il y avait dedans dans les textes publiés. D'autre part, il y a également par substitution, c'est-à-dire qu'on a enlevé un texte et on a mis un autre à la place. Et puis il y a encore une troisième manière, c'est par complémentation, c'est-à-dire qu'en ne sans rien toucher à la loi, on lui a ajouté des alinéas. Hein ? Alors, Je dirais, d'autre part, il y a des modifications qui sont simplement de nature rédactionnelle. Alors, certaines ont été faites. Par exemple, les règlements d'administration publique ont été remplacés par des décrets pris en Conseil d'État, ce qui, d'ailleurs, aboutit à des anachronismes pour des mesures qui ont été prises il y a un siècle et qui, après, étaient définitivement finies. Enfin, d'autre part, alors parmi les modifications rédactionnelles, certaines portent sur la valeur. Par exemple, les amendes en cas d'infraction. Bon, les amendes ont été modifiées. Bon, mais il y a un texte qui n'a jamais été modifié, c'est le fonds de réserve autorisé aux associations cultuelles. 5 000 francs, selon qu'elles ont un revenu annuel excédent, supérieur ou inférieur à 5 000 francs. Or, ce chiffre n'a pas été modifié. Nous en sommes donc actuellement à 50 nouveaux francs, c'est ce qu'il y a dans le texte, c'est-à-dire les associations cultuelles ayant un budget supérieur ou inférieur à 7,5 euros. Voilà où on en est dans le texte actuel. Bon, 7,5 euros. Alors, il y a des références aussi de références. Par exemple, le Code général des impôts ou le nouveau Code pénal. Bon, il y aurait beaucoup de toiletages qui n'ont jamais été faits. Et puis, il y a finalement des modifications, je dirais, purement formelles. Parce que pendant qu'on discute pour savoir s'il faut modifier la loi, si on peut modifier la loi de 1905, eh bien, on constate une chose, c'est que l'article 30 a disparu, a été abrogé sans que personne s'en aperçoive. Alors, comme c'est un article extrêmement important, à savoir que l'instruction religieuse ne peut être donnée pendant les heures de classe et dans les locaux scolaires, on se demande comment est-ce qu'il a pu être abrogé, tout simplement parce que il y en a très peu qui s'en sont aperçus. Il a été repris dans le code de l'éducation nationale et que, par conséquent, ça entraînait formellement sa disparition de la loi de 1905. Alors, actuellement, nous sommes devant plusieurs éditions de la loi de 1905. Ou bien vous vous référez au texte original publié au journal officiel du 9 décembre et vous vous apercevez que pratiquement c'est un texte introuvable. Enfin, maintenant ça commence à sortir partout. Mais très souvent ça comporte un certain nombre d'erreurs qui sont simplement des erreurs de recopiage. Bon, je ne glisse là-dessus. Et puis vous avez d'autre part ce qu'on appelle la version consolidée, c'est-à-dire le texte actuellement en vigueur. Et je suis très étonné de voir que dans les éditions de ce texte consolidé qui se multiplie, il n'y a pas deux textes pareils. Il n'y a pas deux textes pareils, ils ont tous des divergences. Ça peut être parfois simplement une virgule qui modifie complètement le sens de l'article. Ça peut être un pluriel ou un singulier. Ou ça peut être tout simplement, pardonnez-moi, mais c'est l'exemple du rapport laïcité du Conseil d'État, si vous voulez, publié en 2004, rapport 2004. L'article 44, et dernier, a tout simplement sauté sans aucune explication, alors que c'est l'article qui abroge les dispositions antécédentes. C'est vous dire, si vous voulez, à quel point nous sommes dans une situation confuse. Alors, je dirais que je suis quand même frappé par une chose, c'est que sur le siècle écoulé, il y a quelque part, lentement, une rupture subreptice qui s'est produite. Et là, je crois que cela change complètement le caractère de ce que nous appelons la loi de 1905. Et il faut bien savoir non seulement dans quel espace, mais dans quel temps nous nous situons quand nous en parlons. Car en fait, on s'aperçoit qu'avec les dispositions générales qui résultent de la Constitution de 1958, le problème du droit européen, des différents tribunaux, de la Cour européenne, par exemple, je dirais que nous nous trouvons là devant des modifications qui s'introduisent presque automatiquement, presque sans discussion, ou en tout cas sans passer par le Parlement, si vous voulez. Et je dirais que le régime juridique de la loi de 1905, telle que nous la vivons actuelle, m'apparaît extrêmement différent de ce qui pouvait être l'horizon même juridique il y a un siècle. Je prendrai simplement un exemple, parce que nous l'avons entendu, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure le droit colonial. Hein. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de droit colonial, mais il y a un droit ultramarin dont on nous a entretenu. Et il est bien évident que le droit ultramarin obéit à de toutes autres dispositions, hein, d'esprit et même de pratique. Alors, si je devais, puisqu'il faut que je termine et qu'il faut que je sois bref, si vous voulez, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je dirais que Ce qui me frappe aujourd'hui avec cette rupture que j'ai évoquée, voyez par exemple tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est dit à propos de, des drapeaux en berne, à propos de la mort de Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II. Regardez également tout ce qui s'est dit actuellement autour du voile islamique, du foulard, etc. Je dirais, moi, je suis frappé par une chose, c'est la naissance ou l'émergence d'une néo-laïcité sans passé, sans mémoire. Et je dirais que c'est peut-être une inquiétude que nous devrions tous, qui devraient tous nous interroger, ben, en nous demandant mais comment faire, car s'il y a une ignorance du fait religieux, je constate que l'ignorance du fait laïque en France est au moins égale, sinon supérieure, à celle du fait religieux. Parce qu'au moins, il y a quand même des rémanences de catéchisme qui subsistent, tandis qu'il n'y a jamais eu de catéchisme laïque qui nous soit enseigné. Alors, si vous voulez, je terminerai sur ces propos que j'espère ni trop provocateurs, ni trop pessimistes, si vous voulez, mais il m'apparaît important, ce colloque aura au moins le mérite, si vous voulez, d'avoir fait un petit peu le tour juridiquement de tous les problèmes posés par la laïcité et par conséquent de la mise à jour qui s'impose dans les esprits. Je vous remercie.
Émile Poula, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Conclusion générale d'un colloque précisément organisé par l'Académie des sciences morales et politiques. C'était en avril 2005 à l'occasion des commémorations du centenaire de la loi de 1905. Thank you.